Très belle matinée, bon réveil à l'écoute de Radio Chablais, 6 janvier 2026, 6h. On est ensemble jusqu'à 9h dans Décollage, plein de belles choses au programme, le chant du coq, Touchous, Réseau Zéro, enfin bref.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Mais on démarre l'heure avec un mot d'actualité avec Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Bastien, bonjour tout le monde. Le président italien Sergio Mattarella sera probablement en Suisse vendredi pour assister à la cérémonie organisée en mémoire des victimes de l'incendie de Crans-Montana, ont indiqué les milieux diplomatiques italiens. 6 Italiens sont morts dans les flammes et 10 autres ont été blessés. La Confédération a invité à participer à la cérémonie commémorative de vendredi les chefs d'État et de gouvernement des pays touchés par l'incendie du Bar, le Constellation, qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Le président français Emmanuel Macron avait fait savoir un peu plus tôt hier qu'il se rendra en personne en Suisse à cette cérémonie d'hommage. 9 Français, dont une double nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.
5 jours après ce drame, l'émotion et le choc restent immenses.
Au-delà des familles et des proches lourdement impactés, cette catastrophe a aussi profondément marqué celles et ceux qui ont tenté de sauver des vies, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les forces de l'ordre. Confrontés à des scènes traumatisantes, ces services de secours sont souvent composés de miliciens. C'est le cas à Monté. Le chef du service de la sécurité, Glenn Martinier, est revenu sur l'impact que le drame de Crans-Montana a suscité au sein de ses troupes.
Nos pompiers ou nos forces d'intervention, je veux dire pompiers, policiers, la ville de Monté, ont été concernés. Pour plusieurs choses, déjà, dès qu'un service de secours ou un événement comme ça se déroule proche de chez nous, de toute façon, ils s'identifient à ces événements-là et puis se projettent de ce qu'eux auraient pu faire et ça. En plus, nos équipes sont venues appuyer la ville de Sierre pour tenir la ville de Sierre qui, eux, était sur Crans-Montana. Et puis les policiers sont arrivés, on va dire, dans l'après-midi du 1er janvier. Et bien entendu, eux, on a pu en discuter avec eux. On a pu aussi leur mettre à disposition notre cellule de soutien psychologique où ils peuvent en parler et puis débriefer avec des gens compétents.
Glenn Martinier répondait à Ludovic Turin et notait que vendredi sera une journée de deuil national. Une cérémonie est prévue à Crans-Montana.
L'année 2026 marque le bicentenaire du métier de guide de montagne en Suisse.
Pour marquer ce jubilé, l'ASGM, l'association fêtière, rend hommage à ses amoureux des cimes dans un court documentaire YouTube. Pour rappel, il y a 200 ans, les premiers montagnards suisses endossaient le rôle de guide et réalisèrent les premières ascensions vertigineuses aux côtés de riches touristes britanniques. Aujourd'hui encore, ce sont plus de 1500 guides qui transmettent leurs connaissances en alpinisme, ski de randonnée ou escalade à des clients internationaux. Si la profession a profondément évolué au fil du temps, la passion et la dimension humaine restent intactes, souligne Pierre Mattet, secrétaire général de l'ASGM.
La clientèle évolue, elle est un peu à l'image de la société. Une certaine clientèle consumériste est présente aujourd'hui, mais ce n'est pas la majorité. Les gens qui viennent en montagne, justement, recherchent probablement autre chose. Pour celles et ceux qui vont avec un guide de montagne, quelle que soit leur classe sociale, acceptent de se faire guider, donc acceptent de progresser sous les ordres, entre guillemets, d'un guide de montagne. Une cordée, c'est ensuite souvent quelque chose qui va durer, à quelques exceptions près, avec des relations amicales de longue date, peut-être certaines fois pour toute la vie, pour les anciens guides.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo, le documentaire de l'Association suisse des guides de montagne met en lumière une dizaine de professionnels de toute la Suisse, dont Lévionard, Jackie Pochon, 78 ans, le plus ancien guide valaisan encore en activité et partage sa passion de la montagne qui dure depuis plus de 54 ans. Les obsèques de Daniel Brella auront lieu le samedi 10 janvier à la cathédrale de Lausanne. Elles seront célébrées lors d'une cérémonie publique conduite par l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Monseigneur Charles Morero. Elle débutera à 15h30.
L'agriculture suisse a un œil qui rit et l'autre qui pleure.
Elle sort d'une bonne année 2025 en production, mais le taux d'auto-approvisionnement alimentaire de la populaire suisse a encore chuté de 42%. L'Union suisse des paysans entend être d'autant plus combative en 2026, elle l'a dit hier dans une ferme de la campagne bernoise. Elle veut peser de tout son poids sur les travaux devant conduire à la politique agricole 2030, en insistant sur la durabilité, non plus seulement écologique, mais aussi économique et sociale. La vice-présidente de l'USP, la neuchâteloise Anne Chalande.
Il faut placer absolument les familles paysannes au centre de la prochaine politique agricole, la PA30+. On doit offrir des perspectives aux futures générations et créer des conditions cadres correctes pour les familles paysannes sur ces deux aspects-là, principalement l'économie et le social. Dans le cadre du revenu interviennent d'abord les paiements directs qui sont la rémunération par la Confédération d'exigences qui ne sont pas monnayables sur le marché mais qui répondent à l'intérêt public. Donc là, il faut au moins que le paquet actuel soit maintenu. Et puis l'autre élément, c'est les prix sur les marchés. Et là, on doit arriver à une situation de rémunération de l'agriculture qui permette de couvrir l'ensemble de tous les coûts de production.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. L'Union suisse des paysans rejette l'initiative populaire qui veut favoriser la production végétale au détriment de la production animale. Elle devrait être soumise au vote populaire en septembre. À l'international, des tirs ont été entendus autour du palais présidentiel de Miraflores de Caracas hier vers 20h, selon plusieurs témoins contactés par l'agence France Presse. Mais la situation est sous contrôle, a affirmé une source proche du pouvoir qui a évoqué des vols de drones. Ces tirs surviennent un peu plus de 2 jours après la capture dans la capitale du président vénézuélien Nicolas Maduro par des troupes américaines.
Et hier, le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, a plaidé non coupable à New York.
Un tribunal devant lequel il est poursuivi principalement pour trafic de drogue. « Je suis toujours le président de mon pays », a-t-il déclaré, cité par les médias américains. Dans ce contexte, Delcy Rodriguez a été investie présidente par intérim du Venezuela hier, après avoir prêté serment devant l'Assemblée nationale. Samedi, la Cour suprême lui avait ordonné d'assumer les fonctions de chef de l'État pendant 90 jours renouvelables. L'armée lui avait apporté son soutien dimanche. Et enfin, la Thaïlande a accusé aujourd'hui le Cambodge d'avoir violé le cessez-le-feu effectif depuis 10 jours. Selon elle, des tirs de mortier ont blessé un de ses soldats dans une zone frontalière.